Théologie fondamentale, Père Philippe, 24 janvier 1984, Saint-Joseph.
Nous avions donc vu l'article 5. Le prophète discerne-t-il toujours ce qui relève de son propre esprit et ce qu'il dit par l'esprit de prophétie? Alors, c'est une question de degré. Nous l'avions vu, ça. Alors, vous voyez, une question de degré. Les deux manières pour Dieu d'instruire l'âme du prophète, la révélation expresse, et suivant les termes de saint Augustin, une certaine impulsion que les hommes subissent quelquefois même à leur insu. Dans la révélation expresse, le prophète possède la plus grande certitude des réalités qu'il connaît par le don de prophétie. Il tient aussi pour certain que ces réalités lui sont divinement révélées. Mais dans l'impulsion prophétique, il arrive, c'est per instinctum, l'instinct, par l'instinct prophétique, il arrive parfois que le prophète ne puisse pas pleinement discerner si ses paroles et ses pensées sont le résultat d'une inspiration divine ou de son propre esprit. Vous avez réfléchi très fort sur un problème. On vous a demandé quelque chose. Vous avez réfléchi beaucoup, vous avez prié beaucoup. Et puis, il y a quelque chose qui s'impose à vous. Vous dites, oui, ça doit être ça. Est-ce que ça vient d'un instinct prophétique? Ou est-ce que ça vient tout simplement d'une réflexion? Très difficile à savoir. Vous le saurez sans doute par le résultat. Si de fait, c'est bien ça qu'il fallait dire dans telle ou telle circonstance, vous pouvez dire, il y a des chances que le Saint-Esprit m'ait donné cette clarté à ce moment-là. Si au contraire, ça rate complètement, il y a des chances que ça vienne de vous. Alors, au fond, vous ne pouvez souvent le dire qu'après coup. C'est vrai, ça arrive constamment, ces choses-là, dans la vie. Alors, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Il ne faut pas trop vite dire je suis sûr que ça vient du Saint-Esprit. On peut le dire quand on en est absolument certain. Et c'est plutôt rare, l'instinct prophétique, cette certitude. Je crois qu'autrement, il vaut mieux dire, j'ai beaucoup prié, il me semble que. Avoir cette espèce d'humilité de ne pas préciser d'une façon catégorique, ça vient du Saint-Esprit. Parce qu'au fond, c'est très difficile. Dans certains cas, ça peut l'être. Dans d'autres cas, ça peut être tout simplement le fait d'avoir beaucoup prié, d'avoir... Le don de conseil est là. Vous voyez, le passage du don de conseil au don de prophétique, c'est pas si commode que ça. Le don de conseil, le Saint-Esprit nous aide, nous éclaire, mais le don de conseil n'est pas le don de prophétie. Le don de discernement n'est pas le don de prophétie. C'est le discernement qu'on a, vu telle ou telle circonstance particulière, on peut dire, ah, écoutez, faites attention, faites attention. Ne prenez pas telle personne, ce serait trop dangereux, ce serait un manque de prudence. On peut dire ça dans certains cas. Est-ce que c'est... Puis alors on voit 5-6 ans après qu'on n'a pas suivi le conseil qu'on a donné et on voit toutes les catastrophes qui en suivent. On dit, vous voyez, j'avais le temps de prophétie, vous voyez bien. Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire simplement que sans doute le Saint-Esprit vous a inspiré, vous a éclairé pour donner un bon conseil. Parce que le don de conseil, c'est ça. Conseiller à quelqu'un l'orientation de sa vie. C'est surtout le don de conseil, ça, je crois, avant tout, beaucoup plus que l'instinct prophétique. Il faut faire un petit peu attention, ne prendre pas trop vite se considérer comme prophète. Mais prendre avec derrière le dos une étiquette, je suis prophète. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on s'institue prophète. C'est ensuite. Marie, reine des prophètes, n'a pas dû prophétiser souvent. Et elle était la reine des prophètes. Et Dieu l'a utilisé pour des choses très importantes. Alors, article 6, les réalités connues ou annoncées prophétiquement peuvent-elles être fausses? La prophétie, dit Cassiodore, est une inspiration ou une révélation divine. Vous voyez, saint Thomas prend les deux. Inspiration, instinctu, l'instinct, ou une révélation. Ou une révélation divine qui annonce les événements avec une vérité immuable. Or, la vérité de la prophétie ne serait pas immuable s'il pouvait s'y glisser une erreur. La prophétie ne peut donc être fausse. La prophétie ne peut pas être fausse puisqu'elle est dans la lumière de Dieu. Un prophète, dans la mesure même où il prophétise de la part de Dieu, dans la lumière de Dieu, il dit la vérité. Il va me dire alors le don de conseil. Est-ce que le don de conseil peut être faux? On y reviendra. On l'a vu plus haut. La prophétie est une connaissance gravée par la révélation divine dans l'intelligence du prophète sous la forme d'un enseignement. Or, la vérité de la connaissance est la même dans le disciple et dans le maître. Heureusement. La vérité de la connaissance est la même dans le disciple. C'est en ce sens-là que dans l'enseignement, c'est une œuvre commune entre le disciple et le maître. On fait quelque chose de commun parce qu'on cherche la vérité. Et que la vérité est la même dans le disciple et dans le maître. Vous voyez, la dialectique du maître et de l'esclave. Et la dialectique du maître et de l'esclave, on peut la transposer à la dialectique du professeur et des enseignés. 68. On voit très bien. Alors ça fait la dialectique d'opposition entre les deux. La connaissance du disciple est en effet la reproduction de celle du maître. Cognitio adicentis, de celui qui apprend, est similitudo cognitionis docentis. Il y a une similitude qui se transmet. Agens, agit, simile, sibi. Donc la connaissance de celui qui apprend est en effet la similitude, mieux dire la similitude que la reproduction, la similitude de celle du maître. De même que dans les réalités naturelles, la forme de l'engendré est la reproduction de celle de l'engendrant. C'est intéressant comme analogie, c'est le point de vue de la vie qui se transmet. Il y a une transmission de vie dans l'enseignement. N'est-ce pas ? Parce que on passe on transmet l'aspect vital de l'intelligence. Et l'aspect vital de l'intelligence, c'est justement d'atteindre la vérité. Voilà pourquoi saint Jérôme dit que la prophétie est comme une sorte d'empreinte de la divine prescience. C'est du reste très beau, ça. Quandam signum divine prescientiae. Voilà ce que c'est que la prophétie. C'est un signe de la prescience divine. C'est un certain signe de la prescience divine. Il faut donc que la vérité des connaissances et des messages prophétiques soit la même que celle de la connaissance divine. Portati ditur, iam dem esse veritatem prophetice cognitionis et enunciationis que es cognitio divine. Donc il faut donc que la vérité des connaissances et des messages prophétiques soit la même que celle de la connaissance divine. Or, on a montré que la connaissance divine ne peut être sujette à l'erreur. Elle est infaillible. Il s'ensuit que l'erreur ne peut pas non plus se glisser dans la prophétie. Vous voyez, elle est infaillible. Comme il y a l'infaillibilité de la foi, il y a l'infaillibilité de la prophétie. Et il y a l'infaillibilité du souverain pontife. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Parce qu'on regarde toujours l'infaillibilité du souverain pontife d'une façon séparée. Alors il faut regarder que dans l'Église, il y a trois infaillibilités. J'en mettrais même quatre. Il y a l'infaillibilité de la foi. Le croyant ne peut pas se tromper en tant que croyant. Pourquoi ? Parce qu'il participe directement à l'avenir de Dieu. Donc, en tant que croyant, il ne peut pas se tromper. Il reçoit l'avenir de Dieu. Faisons attention, ne tombons pas dans le fanatisme. C'est très dangereux. On verra la différence entre le croyant et un fanatique. Entre le croyant et un illuminé. L'illuminé se croira aussi infaillible. Et le fanatique aussi. Il coupera les têtes de tout le monde en faisant un acte divin. C'est merveilleux. Ça, c'est du fanatisme. Fanatisme religieux. Alors, il y a l'infaillibilité qui fait la faillibilité de la foi. Il y a l'infaillibilité du prophète. C'est simplement dit ça. En tant qu'il est dans la lumière divine. C'est bien ce qui est dit. Or, on a montré que la connaissance divine ne peut être sujette à l'erreur. Je participe de la connaissance divine, je participe nécessairement à la faillibilité. Il s'ensuit que l'erreur ne peut pas non plus se glisser dans la prophétie. Donc, infaillibilité dans le sens pas d'erreur. Sans erreur. Si c'est dit, alors vous avez en plus l'infaillibilité du pape. C'est l'infaillibilité. Quel ordre ? C'est en tant qu'il est pasteur, en tant que gouverneur, en tant qu'il participe. Au gouvernement de Christ. Le Christ-Roi est infaillible dans sa connaissance. Ce n'est pas la connaissance divine, c'est la connaissance de sagesse du Christ-Roi. Et le pape participe à cette sagesse en ce sens qu'il est le vicaire du Christ. Infaillibilité pour tout ce qui regarde la conduite de l'Église au niveau de la foi, l'enseignement de la foi et l'enseignement des mœurs. Je crois qu'on pourrait mettre en plus, alors ça c'est très particulier, au point de vue de la tradition. L'infaillibilité de Marie au niveau de la tradition. Pas qu'elle mère, mère et reine. Il y a une certaine infaillibilité. Et je crois que c'est important pour saisir. C'est pas dit, c'est au fond impliqué dans le mystère de l'Immaculée Conception. Marie pourrait se tromper. Elle pourrait se tromper. Alors comprenez bien la différence. Ici, on ne veut pas se tromper au point de vue de la foi. Le croyant peut se tromper en raison d'imagination. Parce que la foi n'est pas exempte de l'imaginaire. Donc le croyant peut se tromper, toujours. Mais la foi est infaillible. C'est bien différent. Le croyant peut se tromper par le point de vue imaginaire. Alors c'est le point de vue imaginatif qui fait du croyant un fanatique, qui fait du croyant un illuminé. À ce moment-là, il peut y avoir comme une espèce de débordement, si vous voulez. Et là, ce n'est plus la foi. La foi, c'est... Je peux faire le discernement, moi, et je dois le faire le discernement. Tu dois faire le discernement de ce qui relève de la foi et de ce qui relève du fanatisme. Mais évidemment, celui qui est plus dans le fanatisme ne fait plus le discernement. Et celui qui est plus dans l'illuminisme ne fait plus le discernement. Mais les autres font le discernement. Pourquoi ? Parce que le fanatique porte sur des conséquences de la foi, conséquences politiques ou conséquences humaines, comme l'illuminé. Quand ça regarde uniquement la révélation, uniquement la révélation. Alors, il ne peut pas y avoir d'erreur. Puisque puisque la révélation, c'est la connaissance de Dieu. La révélation, il en est venu à la vérité première. Outre cela, la vérité première, c'est cela. De même, la prophétie. Le prophète, dans la mesure où il est certain de sa prophétie, et qui est sous la mouvance de l'Esprit Saint, ne peut pas se tromper. Vous voyez, quand il n'y a que l'instinct de prophétie, alors il ne sait plus. Et donc, à ce moment-là, ça ne joue plus. Quand il n'y a que l'instinct de prophétie, mais quand il y a vraiment la révélation que le prophète reçoit et sait qu'il le reçoit de Dieu, à ce moment-là, alors il y a la faillibilité. Alors, pour le pape, c'est un charisme particulier. Et pour Marie, on va dire que c'est un charisme particulier, je crois que c'est son rôle de mère. C'est le rôle de la maternité. Le rôle de la maternité de Marie, c'est de garder la révélation comme la bonne terre, d'une manière infaillible. D'une manière parfaite et infaillible. Je crois que c'est les différentes zones qu'on doit regarder d'infaillibilité. En voyant les modalités différentes. Hein. C'est des modalités différentes. Alors, voyons maintenant tout de suite les objections. Elles sont nombreuses. Hein. La prophétie, en effet, a pour objet les événements futurs contingents, ainsi qu'on l'a vu. Or, les événements futurs contingents peuvent ne pas se réaliser. Sinon, il se produirait nécessairement. La prophétie peut donc être fausse. C'est la fameuse question des futurs contingents. Les futurs contingents, par définition, peuvent très bien ne pas se réaliser. Ainsi qu'on l'a dit, la certitude de la prescience divine n'exclut pas la contingence des événements particuliers à venir. Car elle ne porte pas, elle se porte sur eux en tant qu'ils sont présents et déjà déterminés dans leur réalisation. Ainsi, la prophétie, qui est l'empreinte ou le signe de la prescience divine, n'exclut pas non plus, par son immuable vérité, la contingence des événements futurs. Alors là, c'est très beau comme question, c'est toute la question de la connaissance de Dieu. Dieu connaît avec certitude. Dans les cheveux de votre tête, il tombe sans que le cœur céleste le permette. La science de Dieu, la préscience de Dieu, connaît avec certitude les futurs contingents. Des futurs qui ne sont pas encore arrivés, qui arriveront, la connaissance de Dieu le connaît d'une façon parfaite. Pourquoi ? Parce que la connaissance de Dieu est mesurée par l'éternité et que l'éternité contient toute la succession du temps. Non, ça, c'est pas commode à comprendre, hein. C'est la question d'éternité. Vous n'avez pas l'intuition d'éternité, moi non plus. Si vous aviez l'intuition d'éternité, vous comprendriez comment une connaissance qui est éternelle peut connaître en acte quelque chose qui, dans le temps, n'est pas encore arrivé. Et pourrait très bien ne pas arriver. C'est toujours l'exemple que prend cet homme, vous savez, c'est toujours. Le guetteur qui est ici, qui regarde les horloges. Là, vous voyez une route par ici, une route ici, une route se creuse, on ne se voit pas. Eh bien, lui, c'est qu'ils savent vont se rencontrer. C'est une image. Parce que bon, en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est que la connaissance de Dieu, la préscience de Dieu, étant éternelle, c'est une préscience qui est parfaitement en acte. Et toutes les réalités qu'elle connaît vont s'actuer. Il connaît en acte ce qui n'est pas encore en acte. Et ce qui pourrait ne jamais être en acte. Alors, je comprends comment la prophétie qui me met en contact avec la préscience de Dieu me permet de connaître avec certitude des futurs contingents. Et le prophète dira ça avec certitude, quand il est vraiment inspiré de Dieu. Vous verrez que Alors, ce seront quelquefois des prophéties qui diront, si l'homme ne se convertit pas, il y aura cela. Si l'homme ne se convertit pas. Alors, oui, ça, c'est toujours très délicat. Ça. Parce que combien d'hommes doivent se convertir pour que... Troisième secret de Fatima. Prophétie. Troisième secret de Fatima. Et c'est vrai, le troisième secret de Fatima, c'est quelque chose de très particulier. C'est des prophéties qui annoncent des malheurs, qui annoncent des choses qui doivent arriver. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et toutes les contingences qui sont impliquées dedans. Alors, voyons. Seconde objection. Jésus avertit prophétiquement Ézéchias lorsqu'il lui annonça « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Cependant, Ézéchias vécut encore 15 années. 15 années, c'est le bientôt de Dieu, ça, c'est rien du tout pour Dieu. C'est... Ainsi qu'on le lit dans le livre des rois et dans Isaïe. De même, le Seigneur dit à Jérémie, « Soudain, je parle contre une nation et contre un royaume. » Soudain, je parle contre une nation et contre un royaume, d'arracher et de détruire et de disperser. Mais si cette nation contre laquelle j'ai proféré des menaces revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais résolu de lui faire. N'en trouve-t-on pas une preuve dans l'exemple des Ninivites, rapporté par le prophète Jonas? Dieu se repentit du mal qu'il devait leur faire et ne le fit pas. Le prophète peut donc être soumise à l'erreur. Oui, tout de suite, j'espère. Je la lis quand même pour vous aider. Les presciences divines ou la prescience divine regarde de deux manières les événements futurs. En eux-mêmes, en tant qu'elle les considère réalisés de façon présente, dans leur cause, en tant qu'elle envisage le rapport des causes à leur effet. Considérés en eux-mêmes, les événements futurs contingents sont déjà déterminés dans leur réalisation. Mais si on les prend dans leur cause, toute détermination n'est point telle qu'il ne puisse se produire autrement. Cette double connaissance existe toujours simultanément dans l'intelligence divine. Mais il n'en est pas de même dans la révélation prophétique. L'empreinte de la révélation prophétique, l'empreinte de la cause n'égale pas toujours sa puissance. Aussi, la révélation prophétique est, elle, quelquefois, une empreinte de la prescience divine selon qu'elle considère les événements futurs contingents en eux-mêmes. Ceux-ci ne produisent alors tels qu'ils ont été prédits, comme la prophétie d'Isaïe. Voici qu'une vierge concevra. D'autres fois, la révélation prophétique ne reproduit de la prescience divine que la connaissance du rapport des causes à leur effet. Les événements peuvent alors se produire autrement qu'ils n'ont été prédits. La prophétie n'est cependant pas pour cela sujette à l'erreur, car le sens de cette prophétie est que les causes intérieures, être naturelles ou actes humains, sont aussi disposés que tel effet doit se produire. Ainsi faut-il entendre cette prédiction d'Isaïe, tu vas mourir, c'est-à-dire l'état de ton corps te dispose à la mort. Ça va très bien. On est toujours prédisposé à la mort comme ça. Là, tu vas mourir. Pour être prophète, tu vas mourir. L'état de ton corps te prédispose à la mort. Et cette prophétie, alors on est plus ou moins prédisposé, plus ou moins proche. Et cette prophétie de Jonas, encore 40 jours et Ninive sera détruite, signifie ses fautes exigent qu'elle soit détruite. S'il est dit de Dieu qu'il se repent, c'est par souffrance, c'est par métaphore. Dieu se comporte à la manière de quelqu'un qui se repose. Il change en décision, mais ne modifie pas son conseil. Alors vous voyez, cette chose importante à saisir, hein, c'est que quand on parle de la prophétie, on parle donc d'une participation à la préscience de Dieu. Or, la préscience de Dieu connaît de façon exhaustive les futurs contingents. Elle les connaît en elle-même ou elle les connaît dans leur cause. Et donc, il peut y avoir deux espèces de prophéties. Il peut y avoir la prophétie qui connaît le futur contingent en lui-même, alors à ce moment-là, il peut en avoir la certitude. Ou il connaît le futur contingent dans sa cause. Et alors à ce moment-là, il n'en a pas la certitude. Oui. C'est pour expliquer de fait le caractère très, très multiple de la prophétie. C'est pas toujours systématiquement de la même façon, parce que c'est une participation à la préscience divine. Puisque c'est une participation à la préscience divine, il faut regarder toutes les modalités de la préscience divine. Alors la préscience divine regarde les futurs contingents en eux-mêmes ou les futurs contingents dans leur cause. Alors, dernière objection. Dans toute proposition conditionnelle, si l'antécédent est absolument nécessaire, le conséquent l'est aussi. Le conséquent dans cette proposition est en effet à l'antécédent ce que la conclusion est aux prémices dans un syllogisme. Et Aristote montre que de prémices nécessaires, il ne résulte jamais qu'une conclusion nécessaire. Or, si la prophétie ne peut être sujette à l'erreur, il est requis que cette proposition conditionnelle soit vraie. Si quelque événement a été prédit, il se produira. L'antécédent de cette proposition est absolument nécessaire, puisqu'il porte sur le passé. Le conséquent sera donc aussi absolument nécessaire. Ce qu'on ne saurait admettre, car la prophétie ne pourrait plus viser des événements contingents. Il est donc faux que la prophétie ne puisse être soumise à l'erreur. Il y a l'objection. Hein ? Autrement, la prophétie n'est plus une prophétie, elle ne porte plus sur des futurs contingents. Alors, réponse de saint Thomas. La vérité de la prophétie est la même que celle de la préscience divine. Ça, c'est très fort. Saint Thomas dit ça. Iamdem est veritas prophétie et divine prescience. C'est la même vérité de la prophétie que celle de la préscience divine, comme on vient de l'exposer. Par suite, cette prophétie, cette proposition conditionnelle, si quelque événement a été prédit, il se produira, reste vrai. Reste vrai comme celle-ci, si quelque événement a été prévu, il se produira. Dans les deux propositions, il est impossible que l'antécédent ne soit pas. Il en résulte que le conséquent est nécessaire. Non pas si on le prend comme futur par rapport à nous, mais si on le considère dans sa réalisation présente. Soumis qu'il est alors, à la prescience divine. Si on le regarde présent dans la prescience divine, il est saisi comme une vérité, et donc il peut être saisi en toute vérité. Mais si on le regarde dans sa cause, il sera toujours contagieux. Il faut simplement regarder le lumen différent par lequel on peut regarder un futur contingent. Regarder un futur contingent dans la prescience divine, ça n'offre aucune difficulté. Puisque l'éternité contient le temps. Ça, évidemment, c'est un petit effort que vous devez faire, pas d'imagination, parce que votre imagination n'est pas grand-chose, mais c'est un petit effort que vous devez faire en point de vue intellectuel. Toute la succession du temps, depuis le premier moment de la création jusqu'au dernier moment, toute cette succession du temps est présente à l'éternité. Ça, quand on verra dans l'éternité quelque chose, toute la succession du temps sera présente. Vous assisterez à la création du monde. Nous assisterons à la création du monde. Avec une musique de jazz. C'était pas un mec qui a vu ça. Le petit cinéma du Tommy, c'est des gens vieux. Alors, il fait des miracles. Bon, évidemment, pour montrer la création, il fait une musique de jazz. Forcément, ça ne pouvait pas tout le monde. Vous ne pouvez pas se réaliser dans le silence. Comment voulez-vous que ça réussisse ? Alors il fallait faire un petit peu comprendre ce que ça pouvait être. Alors, on essayait de montrer la création d'une hypothèse. L'éternité contient tout le temps. Et donc toute la succession du temps est présente in instanti dans l'éternité, dans l'instant de l'éternité. C'est fou comme on dit. Assez vite. C'est quelque chose qui est. Et on voit que ça ne peut pas être autrement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne peut pas être autrement. Si l'éternité est l'éternité, et que le temps est le temps, il faut nécessairement que l'éternité mesure le temps. Et comme l'éternité est inistanti, ça mesure toute la succession du temps. Et le regard de Dieu, qui est un regard dans l'éternité, regardons toute la succession du temps, il est senti. Donc tous les futurs contingents sont présents dans l'éternité. Et ça ne supprime pas les futurs contingents qui sont dans le temps. L'éternité ne supprime pas la succession du temps. Puisque l'éternité fonde la succession du temps. Et que si l'éternité n'existait pas, le temps n'existerait pas. Donc c'est l'éternité qui est cause du temps. Et l'éternité maintient le temps et le mesure. Alors, toute la succession est présente. Alors, si je participe à la préscience de Dieu, si je participe à la préscience de Dieu, évidemment, il m'est donné avec certitude que tel événement futur sera se réalisera. Il m'est donné avec certitude ça, et donc j'ai une connaissance certaine d'un futur contingent. Mais ce n'est plus selon le mode humain qui se fait toujours à travers le point de vue du temps, puisque je suis conditionné par le temps, mais ça se fait dans la lumière de Dieu. Et là, il y a comme quelque chose qui est infaillible à ce moment-là. Voilà la question sur l'essence de la prophétie, vous voyez. Essayez de comprendre ce que représente ce point de vue de l'essence de la prophétie. J'espère que vous voyez un peu mieux. S'il y avait des questions et des objections, il faudrait les préciser. Alors, vous voyez que ce qui peut être le mieux fait comprendre ce que c'est que l'essence de la prophétie, c'est cette participation à la prescience divine. Je crois que c'est ça, théologiquement, la chose la plus parfaite. C'est la participation à la prescience divine. C'est d'être éclairé par la prescience divine, d'être dans la lumière de la prescience divine. Alors, à ce moment-là, on comprend que le point de vue de la prophétie peut regarder aussi bien les futurs contingents que le mystère lui-même de Dieu, dans lequel je pénètre et dans lequel je ne pourrais pas pénétrer autrement. Mais ordinairement, on dit prophète celui qui connaît les futurs contingents. Ces futurs contingents, on ne peut les connaître que par l'illumination, que par la participation à l'éternité divine. Vient ensuite alors la grande question de la cause de la prophétie. Nous nous demanderons maintenant quelle est la cause de la prophétie. La prophétie peut-elle être naturelle? Vient-elle de Dieu? La prophétie requiert-elle des dispositions naturelles? Parce que si on est né sous telle étoile, est-ce qu'on est plus parfait, plus immédiatement prophète? Les dispositions naturelles. Oui. Requiert-elle de bonnes mœurs? Si je suis prophète, est-ce que je suis nécessairement quelqu'un qui est un saint? Y a-t-il une prophétie? Y a-t-il une prophétie qui vient des démons? Peut-on falsifier la prophétie? Les prophètes, des démons annoncent-ils quelquefois la vérité? Si vous êtes sous la mouvance du démon, vous pouvez, de temps en temps, savoir des choses que les autres hommes ne savent pas et que les démons savent. Ce n'est pas comme la préscience de Dieu. Hein, parce que pour la connaissance des démons, les futurs contingents resteront toujours les futurs contingents. Alors, la prophétie peut-elle être naturelle? Saint-Pierre dit dans sa deuxième épître, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un prophète a jamais été apporté. Qu'une prophétie n'ait jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les saints... C'est poussé, mais poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. La prophétie ne vient donc pas de la nature, c'est un don de l'Esprit Saint. Bien évident, autrement elle ne serait pas divine. Elle resterait humaine. Alors ça c'est très intéressant pour la limite du nous. Y a-t-il un désir naturel de la prophétie? Y a-t-il un appétit naturel de la prophétie? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Il y a un désir naturel. Peut-il y avoir un désir naturel de voir Dieu? Peut-il avoir un désir naturel d'être prophète? Donc d'avoir la connaissance des futurs contingents. Ou est-ce que c'est de l'orgueil? Il peut y avoir, comme on l'a vu à l'article précédent, une double connaissance prophétique des événements futurs. En eux-mêmes, et dans leur cause. Alors ça, c'est capital, hein, c'est déjà vu, mais c'est très important. Or, connaître les événements futurs en eux-mêmes est le propre de l'intelligence divine, à l'éternité de laquelle toutes choses sont présentes, comme il a été prouvé dans la première partie. Aussi, une telle connaissance de l'avenir ne peut-elle venir de la nature ? Mais seulement d'une révélation divine. Toutefois, les événements futurs peuvent être connus dans leur cause, en vertu d'une connaissance naturelle, même par l'homme. C'est ainsi que le médecin connaît à l'avance la santé ou la mort dans leur cause, grâce à l'expérience qu'il a du rapport de ces causes à leur effet. Un médecin qui dit dans un mois, vous n'avez pas plus qu'un mois à vivre. Ordinairement, quand il dit ça, ça ne se réalise pas. Mais ça veut rien. Ça peut se réaliser. Ça peut arriver. Ça dépend dans quel domaine. Ça. Mais ça peut très bien ça peut se réaliser. C'est approximatif. C'est approximatif. Cette connaissance des événements futurs que l'homme a de par sa nature, on peut l'entendre de deux manières. En ce sens que l'âme serait immédiatement capable de connaître l'avenir en vertu du sens inné qu'elle possède. Ainsi, comme le remarque saint Augustin dans son commentaire sur la Genèse, certains prétendaient que l'âme humaine avait en elle-même une puissance de divination. Ce fut, semble-t-il, l'opinion de Platon. D'après lui, les âmes ont une connaissance de toute chose par la participation aux idées. Mais cette connaissance est omnubilée du fait que les âmes sont unies au corps. Et plus ou moins d'après les individus, suivant que leur corps est plus ou moins pur. Donc, si vous avez un corps de plomb ou un corps d'or, un corps de plomb ou un corps d'or, si vous avez un corps d'or, selon Platon, évidemment, vous êtes beaucoup plus libre. Et en cette hypothèse, on pourrait soutenir que les hommes dont l'âme n'est pas très enténébrée, par suite de l'union avec leur corps, sont capables de connaître certains événements futurs en vertu de leur propre science. Mais à cette théorie, saint Augustin fait cette objection. Pourquoi l'âme ne peut-elle pas l'avoir toujours, cette puissance de divination, alors qu'elle la désire toujours? Alors qu'elle la désire toujours. Hein, c'est le point de vue de comme semper velit, alors qu'elle la veut toujours. Donc, désir naturel. Selon saint Augustin, c'est saint Augustin qui dit ça. Mais il semble plus vraisemblable que l'âme acquiert ses connaissances par l'intermédiaire des réalités sensibles. Il semble plus vraisemblable. Verius sese videtur quod anima est ex sensibilibus. Vous voyez, saint Thomas n'est pas une affirmation absolue. Très curieux. Je dis ça pour tous ceux qui sont néoplatoniciens. Mais il semble plus vraisemblable que l'âme acquiert ses connaissances par l'intermédiaire des réalités sensibles, d'après l'enseignement d'Aristote. Il y a très bien l'opposition entre Aristote et Augustin. C'est net. Ainsi qu'on l'a vu dans la première partie, il est donc préférable d'adopter l'opinion suivante. Les hommes n'ont pas la connaissance de ces événements futurs, mais ils peuvent l'acquérir par voie expérimentale. Ils sont alors aidés par leur disposition naturelle, suivant que leur puissance imaginative est plus parfaite et leur intelligence plus lucide. Il y a du plus et du moins, suivant que vous avez des intuitions plus ou moins grandes. Toutefois, cette connaissance des événements futurs diffère de celle qui relève de la révélation divine de deux manières. Celle-ci peut porter sur n'importe quel événement. Et elle est infaillible. Au contraire, la connaissance acquise naturellement ne vise pas les effets qui sont du ressort de l'expérience humaine. Au contraire, la connaissance acquise naturellement ne vise que les effets qui sont du ressort de l'expérience humaine. Deuxièmement, la prophétie surnaturelle possède une vérité immuable. La seconde, au contraire, peut être sujette à l'erreur. La première connaissance appartient en propre à la prophétie, mais non pas la seconde. Car la connaissance prophétique, on le sait déjà, a pour objet les réalités qui dépassent universellement la connaissance humaine. Il faut donc dire que que la prophétie proprement dite ne peut venir de la nature, mais seulement de la révélation divine. Au fond, c'est tout simplement montrer ici, comme il l'a déjà fait, que si vous êtes en face d'une prophétie vraie, cette prophétie ne peut dépendre que de Dieu, puisque c'est la participation de la préscience divine à l'égard des futurs contingents. Mais il peut y avoir quelque chose qui approche de la prophétie, mais qui n'est pas la prophétie, c'est-à-dire des intuitions par rapport au futur. Il faut avoir une intelligence particulièrement subtile, particulièrement intuitive. Alors c'est les causes, c'est dans les causes. C'est pas dans les faits, c'est dans les causes, c'est dans les liens. Étant donné l'état des choses, il peut y arriver ceci. Étant donné cela, oui, alors on regarde les causes. Et à partir des causes, on peut présumer. On peut pas plus. On peut présumer. On donne certaines opinions.